Vous écoutez RTL. RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous et bienvenue sur RTL. Bonsoir à vous Thomas.
Bonsoir Sidonie, salut les curieux. On attend vos questions 3210 sur RTL.fr et sur Twitter avec le mot dièse, le hashtag la curiosité. RTL, ce soir c'est une impératrice, rien de moins qui vous donne rendez-vous. Joséphine de Beauharnais, comment cette veuve qui trompait Napoléon et qui n'a jamais réussi à lui donner d'enfant a inventé le rôle de première dame. On vous raconte son destin extraordinaire dans la curiosité et puis les premiers froids et bientôt, comme chaque année, les premiers reportages sur les sans-abri. 60 ans après l'appel de l'abbé Pierre, on vous fait partager le quotidien des compagnons d'Emmaüs, de ceux qui toute l'année redonnent de l'espoir à ceux qui ont tout perdu.
Vous pouvez poser vos questions au 3210, on attend vos réactions, et puis sur RTL.fr et sur Twitter, bien sûr. Je ne sais pas vous, mais moi, Thomas, à l'école, j'étais plutôt bonne en géographie. C'est ça, j'ai redonné l'adresse.
Oui, oui, vous avez tout redonné, le 3210, RTL.fr. Ça veut dire que vous ne m'écoutez pas, en fait, c'est ça?
J'avoue.
Allez, on démarre. Les terres oubliées, c'est parti.
J'avais envie de le faire.
Non, mais c'est bien, c'est très bien.
Je voulais dire le hashtag la curiosité RTL.
Voilà, et d'ailleurs, si vous voulez nous envoyer vos questions au 3210 ou sur RTL.fr, c'est le moment. Allez, c'est parti, on y va.
Suivez-nous sur Twitter, parce qu'on tweete plein d'infos et des photos si simples. Pas des coulisses de l'émission. En tout cas, je voulais vous parler un peu de géographie parce que j'étais sûre d'être très bonne en géographie jusqu'à ce que je lise un livre qui est arrivé à la rédaction Tour du Monde des Terres Oubliées. Vous connaissez les îles Chesterfield, Thomas ?
Non.
Non, Floriana ?
Non plus.
Non, d'accord, les îles éparses.
Mais moi, j'étais nulle en géo. Ah oui, d'accord, bon,
je laisse tomber. Alors, ce sont des noms qui font rêver, c'est exotique, ça a l'air d'être très très loin. Et pourtant, ce sont des îles françaises. Bonsoir, Bruno Fulini.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain.
Bonsoir.
Vous êtes un explorateur également, car vous êtes parti sur les traces de ces îles, parce que ce sont souvent des îles, de ces terres oubliées. Comment vous avez eu cette idée ?
On ne se lève pas un matin en disant je vais faire la recension de tous les territoires français complètement oubliés au bout du monde. C'est en feuilletant des atlas, en lisant des vieux bouquins, en lisant des vieux journaux, etc., que petit à petit j'ai constitué comme ça un stock d'historiettes, une documentation, avec l'envie un jour, et ce jour a fini par arriver, de publier un tour du monde comme cela. Alors c'est parti d'interrogations. Effectivement, quand vous feuilletez un atlas, vous voyez île Chesterfield au large de l'Australie, et puis entre parenthèses FR. Ce qui veut dire France. Pourquoi est-ce qu'un petit territoire comme cela au large de l'Australie serait français aujourd'hui encore ? Quelle est cette histoire ? Parce que derrière ces territoires, derrière la géographie, il y a l'histoire, il y a des hommes, il y a des aventures humaines. Et moi, c'est ça, bien sûr, qui m'intéresse. Donc, je me suis mis un petit peu sur les traces de tous ces personnages étonnants, des navigateurs, des baleiniers, des trafiquants, des utopistes, toutes sortes de personnages qui sont partis de France, qui ont fait le tour de la planète et qui, eh bien, de ci, de là, ont planté un drapeau. Alors, autrefois, un drapeau blanc avec des lys, plus tard un drapeau tricolore, sur des territoires dont on pensait qu'ils n'avaient aucun intérêt, à telle enseigne qu'on les a jamais décolonisés, parce qu'ils sont inhabités, parfois inhabitables, et puis aujourd'hui on se rend compte que ce sont des richesses inestimables.
Mais ces terres françaises oubliées dont vous nous parlez, elles sont si nombreuses que cela ?
Elles sont très nombreuses, et surtout, il faut bien se prendre en considération qu'aujourd'hui, le plus petit îlot complètement perdu au milieu de l'océan, comme par exemple Clipperton dans le Pacifique, Nord, eh bien cet îlot de quelques kilomètres carrés, il commande une étendue maritime de plus de 400 000 kilomètres carrés. Parce que depuis 1983, on a en quelque sorte territorialisé les océans. C'est-à-dire qu'on a défini non seulement des eaux territoriales, mais des zones économiques exclusives avec de véritables frontières maritimes. Ça veut dire qu'avec tous ces îlots et archipels épars, la France, c'est le deuxième domaine maritime au monde, juste après celui des États-Unis.
Mais ça veut dire qu'il y a des territoires français partout dans le monde, en fait ?
On peut faire le tour de la planète sans quitter la France. On peut partir de métropole, revenir en métropole, par exemple, partir sur la façade atlantique, revenir en Méditerranée. On va faire le tour de la planète, tous les océans, tous les continents, et on n'aura jamais quitté la France.
Et ces terres oubliées, est-ce qu'elles sont sur un atlas, par exemple ? Est-ce qu'on peut les trouver sur les cartes ?
Oui, mais il faut une loupe. parce que voilà, certaines sont relativement discrètes, méconnues. D'autres sont bien connues. Bien sûr, il y a l'outre-mer, bien connu. Moi, j'ai passé une partie de mon enfance sur l'île de la Réunion. Tout le monde connaît l'île de la Réunion. On pourrait parler de la Guyane. Vous savez qu'on a une frontière commune avec le Brésil. On ne le dit pas assez. Et puis, à côté de ces départements et territoires d'outre-mer bien connus, il y a des poussières d'îles, des poussières d'îlots. Et c'est là-dessus que j'ai voulu promener la loupe et faire un petit peu savoir à tout le monde, quoi, que ces territoires existaient et sont toujours français aujourd'hui.
Mais vous en avez visité certains de ces micro-territoires français?
Quelques-uns, mais moi je suis plutôt travaillé en bibliothèque. Certains de ces territoires sont quand même d'un accès particulièrement difficile.
Et ce sont des terres habitées pour la plupart?
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des territoires totalement inhabités, d'autres qui sont habités mais pas par une population indigène, qui sont habités même par une population relevée périodiquement. Si je prends par exemple les îles Kerguelen ou bien la Terre Adélie qui est une fraction du continent antarctique, vous avez des chercheurs, vous avez quelques militaires, quelques techniciens, bon, qui sont relevés régulièrement, bien sûr.
Mais vous parliez de ces territoires maritimes, en quelque sorte, qui existent. Donc, c'est depuis 83 hein, que ça a été mis en place. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des richesses
D'abord, il y a des richesses halieutiques, c'est-à-dire la pêche.
Des zones de pêche autorisées,
voilà.
Oui.
On a considéré que si on percevait simplement des droits de pêche sur les eaux de Clipperton, il y avait de quoi financer un établissement humain continuel sur cette île, qui aujourd'hui est inhabitée. Clipperton a un code postal, mais pas d'habitants. Et des richesses phénoménales, mais qui ne sont pas exploitées. Et au-delà des droits de pêche, il y a également un sous-sol sous-marin. Et qui sait si dans 50 ans, 100 ans, eh bien, on ne pourra pas exploiter les richesses de ce sous-sol. Alors, ça posera plein de problèmes, y compris environnementaux. Mais et là, je n'y suis pour rien, c'est après la parution du livre, un groupe de scientifiques a fait savoir que autour des îles éparses, qui sont des petites îles de l'océan Indien, il y avait sans doute des gisements d'hydrocarbures comparables à ceux de la mer du Nord. Donc en fait, potentiellement, c'est une richesse absolument colossale.
Justement, on embarque dans un instant, on va les visiter, on va mettre le pied sur ces terres françaises oubliées, sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
RTL.
À l'école, on apprend que la France fait 552 000 km². Mais si on compte l'outre-mer, on double en fait la superficie, 1 100 000 km². Et si on ajoute les domaines maritimes, alors là, on arrive à 12 millions.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est plus grand que la Chine.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Nous sommes avec vous, Bruno Fulini, on vient de vous entendre. C'est plus grand que la Chine, c'est-à-dire que la France, plus tous ces territoires d'outre-mer, plus ces terres françaises oubliées dont nous parlons ce soir, c'est plus grand que la Chine, mais on est une superpuissance en fait.
Nous sommes en tout cas une puissance mondiale répartie tout autour de la planète. Alors bon, je triche un petit peu. C'est-à-dire que bien sûr, sur ces 12 millions de kilomètres carrés, 90% c'est de l'eau. Mais cette eau, encore une fois, elle recouvre des fonds sous-marins qui sont potentiellement très riches. Et puis il y a un énorme bloc aussi, qui est la Terre Adélie, donc une portion de tarte dans le continent antarctique. C'est plus grand que l'Allemagne, en fait, ce territoire-là.
Et qu'est-ce qu'on y trouve sur cette Terre Adélie? Tiens, commençons à nous balader, parce qu'on est impatients d'aller découvrir cette terre française oubliée. Ça ressemble à quoi? C'est qui y habite? Qu'est-ce qu'on y fait?
Donc, on est sur l'Antarctique, un côté pôle sud. Donc, ça part du pôle sud et ça va jusque vers le littoral. La capitale, entre guillemets, est plutôt une base scientifique qui porte le nom de Dumont-d'Urville. Dumont-d'Urville, c'est celui qui, au 19e siècle, a découvert cette terre et en a pris possession pour la France. Et c'est d'ailleurs sur le prénom de sa femme qu'il a forgé le nom de ce territoire. Hein. Sa femme s'appelait Adèle et donc c'est devenu la Terre Adélie. Alors aujourd'hui, ce sont surtout des scientifiques qui étudient ce territoire. C'est un territoire où il est très difficile de vivre. Hein. Nous sommes encore une fois vers le pôle sud. Simplement, on ne sait pas encore ce que nous réserve l'avenir, si vous voulez. Et donc, ce territoire qui, pour le moment, a quelques dizaines d'habitants régulièrement relevés, eh bien, il est stratégique. Et par ailleurs, de part et d'autre, nous avons des territoires australiens, puisque l'Australie revendique également, de part et d'autre, des portions de l'Antarctique.
Quand vous dites, vous ne savez pas de quoi l'avenir va être fait, mais ça veut dire quoi? Que ça peut être une terre, la Terre Adélie, qui peut nous être utile en cas de quoi? par exemple.
Non, mais vous savez, regardez, les Russes ont vendu l'Alaska au 19e siècle, ils s'en mordent encore les doigts. À l'époque, ça paraissait inintéressant pour eux d'avoir l'Alaska. Après, on y a découvert du pétrole, des minerais, toutes sortes de choses. Bon, et puis il y a également des découvertes scientifiques qui peuvent être faites par le grand froid. On commence aussi à s'interroger sur les refroidissements de superordinateurs dans les zones polaires. Enfin, il y a toutes sortes de choses, alors là, qui dépassent complètement mon champ de compétences, mais qui signifie qu'il est important d'avoir comme cela des possessions territoriales un petit peu partout.
Quand on dit qu'on les oublie, Bruno Fulini, ça veut dire qu'on les délaisse, qu'on ne s'en occupe pas, ou ça veut dire juste que bon, on n'y va pas nous souvent, ou que c'est tellement loin de notre métropole que...
Ça va de pair, c'est-à-dire que beaucoup de Français soit ignorent l'existence de ces territoires, soit considèrent que c'est totalement pittoresque. Et c'est vrai qu'il y a des aspects tout à fait pittoresques. J'ai découvert que, par exemple, que dans les terres australes et antarctiques françaises, on avait forgé tout un langage et qui s'y parlait des mots qu'on n'emploie pas en métropole. Ça, c'est pittoresque.
Par exemple, vous avez quelques-uns de ces mots ou
Par exemple, si vous êtes un grand scientifique, mais que c'est votre tour de faire le service au réfectoire, vous êtes Marie ou vous êtes Marie. Petite Marie. voilà, il y a tout un jargon c'est comme drôle. Cela, c'est assez mignon.
J'ai vu la radio, c'est la ZZ, je crois, quelque chose comme ça.
La radio portable.
La radio portable. Pardon.
S'il vous plaît.
Oui, ça m'amuse.
Soyons précis. Tiens, quelle surprise. Précis. Si on continue de se balader les îles Chesterfield, parce que c'est de la géographie et c'est de l'histoire, c'est ce qui est passionnant quand on vous écoute, Bruno Fulini. C'est quoi l'histoire des îles Chesterfield? Comment ça devient français?
Alors, c'est une vraie comédie, les îles Chesterfield. Au départ, c'est un nom évidemment britannique. Ça a été donné du nom d'un bateau anglais qui a failli y couler. Évidemment, les Anglais sont vite partis et n'ont pas du tout pris possession du territoire. On s'y intéressait pas. Et pendant très longtemps, les baleiniers utilisaient ces îles pour débarquer, pour faire un petit peu de provisions, pour chasser, varier un petit peu l'ordinaire.
C'est mais où déjà dans quel,
Donc c'est un archipel minuscule et à la fois très étendu qui est proche de l'Australie. Comment est-ce que ça peut être à la fois minuscule et étendu? Au total, ça fait 1 km carré, mais divisé en une soixantaine d'îles et îlots qui se répartissent sur 20 000 km carrés d'étendue océanique. Donc c'est très vaste et en même temps c'est une poussière d'îles. C'est une poussière de territoire. Alors, pendant longtemps, on ne s'y est pas du tout intéressé, jusqu'au jour où, en 1878, un Anglais arrive en Nouvelle-Calédonie avec l'idée partir pour les Chesterfield et d'y planter le drapeau britannique pour y exploiter le guano. Le guano, donc, c'est la fiente d'oiseaux de mer. Et au 19e siècle, on se rend compte que c'est du phosphate pur. Donc, vous voyez, les richesses ne sont pas toujours là où on l'imagine. Des couches et des couches pendant des siècles de déjection d'oiseaux de mer, eh bien, c'est une richesse. C'est du phosphate, c'est de l'engrais, ça vaut très cher. Et donc cet Anglais veut aller exploiter les mines à ciel ouvert de guano des îles Chesterfield. Alors là, les Français se rendent compte que zut, ça va nous échapper. Donc on le fait copieusement
boire. Le guano français.
Et voilà. Et donc le Made in France va triompher en matière de guano parce qu'on fait boire l'Anglais de façon à le retarder. Et c'est finalement une expédition française qui va planter le drapeau tricolore. Et alors là, on fait très bien les choses. Il y a des documents historiques magnifiques puisqu'on envoie un bâtiment de guerre, qui va tirer 21 coups de canon, on envoie des troupes à terre, on plante le drapeau, on publie un récit de prise de possession au journal officiel. Voilà, ces îles deviennent françaises et le sont toujours. Alors le guano a été exploité pendant un certain temps, on a même envoyé un fonctionnaire du fisc, je vous assure, avec sa femme, monsieur et madame Martin, qui était là pour évaluer les cubages de guano extraits et pour prélever un franc par tonne de guano.
Il faut faire les choses dans les règles, c'est bien normal.
Alors, ils ont tenu 3 mois parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de distractions à Chesterfield. On ignore...
Ils ont pas beaucoup de conversations, les oiseaux. Oui,
voilà. On ignore comment a fini le couple Martin, mais il est parti au bout d'un certain temps. Et puis après, le guano s'est exploité un petit peu en franchise d'impôts, il faut bien le dire.
Il y a plein d'autres terres oubliées françaises. Vous connaissez par exemple les îles intermittentes. Un coup, elles sont là, un coup, elles disparaissent. Ou les îles de beurre. Ces îles qui naissent parfois dans le regard fatigué de certains marins, un petit peu fatigués aussi. On continue dans un instant notre tour du monde des terres françaises oubliées sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. RTL.
Saviez-vous qu'il existe des territoires français un peu partout dans le monde? Leur surface totale, en rajoutant les zones maritimes, atteint les 11 millions de kilomètres carrés, plus de 18 fois le territoire de la métropole, mais ces terres souvent des îles. On les a oubliées avec le temps et on les redécouvre ce soir grâce à notre invité, l'historien et écrivain Bruno Fulini. Parmi ces terres oubliées, il y a une île invisible. Alors c'est quoi l'île Julia? Pourquoi on dit que c'est une île invisible?
Disons qu'elle n'est visible qu'à certaines périodes de l'histoire, tout simplement parce que c'est une île capricieuse, c'est une île intermittente. Alors de quoi s'agit-il? Nous sommes au milieu de la Méditerranée, pas très loin de la Sicile, de Malte, c'est-à-dire dans une zone tout simplement volcanique. Mmh. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez un volcan sous-marin et de temps en temps il y a une poussée sismique et donc le volcan monte et crève la surface des eaux, donc ça fait une île. Et puis le vent, la mer disperse les cendres et l'île disparaît. Et donc on a actuellement un volcan qui aujourd'hui est à environ 8 mètres sous la surface de la Méditerranée, donc c'est pas grand chose par rapport à l'ensemble de la Méditerranée. Mmh. Et bien tout le monde attend de voir si un jour ou l'autre cette île ressurgit. Ce qu'il faut savoir,
la dernière fois c'était quand?
Alors il y a eu plusieurs résurgences, mais très brèves. Celle qui a été vraiment importante, c'est en 1831. Importante parce que là ça a duré plusieurs mois et toute l'Europe s'est passionnée pour ce phénomène. Ce qui fait que les Anglais qui étaient à l'époque à Malte, les Napolitains et puis les Français, eh bien se sont livrés une espèce de course pour s'emparer de cette île, à la fois parce que c'était une question d'orgueil national et puis aussi parce qu'on est dans une zone totalement stratégique. Alors là, pour des raisons militaires, celui qui détiendrait une île dans ses parages ouvrirait et fermerait la Méditerranée à son gré. Donc c'était tout à fait important.
Cette île, quand elle va réapparaître, l'île Julia, on n'est pas sûr qu'elle sera française. Pourquoi?
Alors c'est compliqué. Quel est le statut
elle
d'une
n'est pas
île c'est ça le problème. Les Français y ont débarqué et très intelligemment, ils ont fait ça en 1831 sous le couvert d'une expédition scientifique. Donc on a pris possession, mais c'était pour l'amour de l'humanité, pour l'avancement des sciences et des connaissances. On a quand même planté un beau drapeau tricolore, une plaque, tout ce qu'il fallait. Simplement, au bout de quelques mois, l'île avait disparu et on a même le rapport d'un malheureux capitaine de la marine qu'on a envoyé un petit peu en inspection, qui fait le tour, qui écrit à son ministre, écoutez, je suis désolé, mais le territoire qu'on a conquis le mois dernier a disparu.
Bon, alors... Il y a une autre île intermittente, comme ça, c'est l'île des faisans. Alors cette île, elle a la particularité de changer de nationalité tous les deux ans, c'est ça?
Tous les six mois.
Alors elle se trouve où déjà?
Alors c'est une île donc, qui elle est permanente d'un point de vue géographique, mais qui est intermittente d'un point de vue juridique. Nous sommes sur la Bidassoa, petit fleuve qui sépare la France de l'Espagne. Donc là, on est il s'agit d'une île fluviale, d'une toute petite île du côté de Hendaye en fait. Donc d'un côté vous avez la France, de l'autre vous avez l'Espagne, et que faire de cet îlot qui est au milieu de la rivière? Alors, c'est en même
temps... Une garde alternée, par exemple.
C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'île n'est ni française ni espagnole. Elle est en indivision perpétuelle entre les deux pays. Et comme il y a eu des fois des bagarres entre pêcheurs, des petits problèmes localement, il fallait y régler la police. Donc, en 1901, on a signé une convention qui fait que pendant 6 mois, l'île est administrée par l'Espagne. Pendant 6 mois, l'île est administrée par la France. Donc, le 1er février prochain, hélas, la France va se réduire de 30 arts. Et puis, vengeance, le 1er août prochain, nous allons de nouveau...
Et ça change quoi, concrètement, sur cette île des faisans?
Alors, l'île n'a évidemment pas d'habitants, il n'y a même pas de faisans, parce que le mot faisan est un vieux mot qui désigne les diplomates, évidemment, qui sont les inventeurs de ce système aberrant. Il y a par contre des canards, il y a une pelouse, il y a un monument. Et la pelouse est très bien entretenue. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce territoire est le dernier territoire de la métropole qui est... lorsqu'elle est française, cette île, sous le commandement direct de la Marine nationale. C'est la Marine qui, pour le compte du gouvernement, administre cette île pendant son semestre français.
Alors, Bruno Fulini, dans votre tour du monde des terres françaises oubliées, que vous publiez d'ailleurs aux éditions du Trésor, on découvre aussi, et j'adore ce nom, les îles de beurre. C'est quoi les îles de beurre?
Alors les îles de beurre, c'est un vocabulaire maritime, bien sûr, ça désigne ces îles nombreuses en réalité, qu'un navigateur aperçoit, qu'il signale, qu'on porte sur les cartes, et puis lorsqu'on revient, elles ne sont plus là, elles ont disparu, comme si elles avaient fondu au soleil. Alors il y a plein d'explications possibles, depuis l'abus de Rome jusqu'aux brumes du matin, sans compter les bandes cétacées, les pierres ponces qui peuvent flotter, enfin c'est un petit peu l'équivalent terrestre du monstre du Loch Ness.
C'est le rêve de tout navigateur, ça, de découvrir une île en plus.
Alors évidemment, bien sûr, on est toujours content de découvrir une île et on a un peu l'air ridicule quand l'île a disparu. Alors des fois, ça arrive vraiment.
Mais si, je vous jure, elle y était.
Voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et très franchement, si on retrouvait toutes les îles de beurre vues par des Français, c'est au premier rang que serait le domaine maritime français. Mais on en a perdu quelques-unes. La plus célèbre est peut-être le récif Ernest Le Gouvet. Ernest Le Gouvet, c'était le nom d'un dramaturge de la Belle Époque qui avait donné son nom à un bateau. Le capitaine du bateau voit un rocher comme cela dans un parage où il n'y a vraiment aucune terre dans le Pacifique Sud, mais dans la partie froide du Pacifique Sud. Cette île est sur toutes les cartes, mais on ne l'a jamais revue depuis. Et alors, il y a quelque chose de très, très troublant, c'est que le Ernest Le Gouvet en question était ami de Jules Verne et que ce récif a exactement les coordonnées géographiques de Tabor, c'est-à-dire l'île mystérieuse où finit le capitaine Nemo.
Ce sera un canular,
et
peut-être.
Donc, ça a quand même tout l'air d'un canular, mais alors du genre magistral.
Très belle histoire. On fait les curieux, on fait les explorateurs sur RTL à la découverte de ces terres oubliées, les terres françaises. Et dans un instant, on s'enfonce dans la forêt du Munda, c'est comme ça qu'on prononce Mundat, et on aborde les terres australes et Antarctique. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
Dans le ronflement des hélices, le bleu bercé de nuages, la France, ce n'est pas un mirage, ressemble à une pluie de confettis tombée sur l'océan Indien.
La curiosité est un vilain défaut.
De belles inconnues, territoires d'outre-mer attachés aux terres australes et antarctiques françaises, comme l'archipel des Kerguelen et la Terre Adélie.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et on a reconnu la voix de Michel Izard, journaliste à TF1. Coucou Michel.
Et on, là, on reconnaît d'ailleurs la musique de Koh Lanta aussi.
C'est une spéciale.
C'est sûr. Et c'est vrai que sur ces îles françaises oubliées, on pourrait aller faire de belles épreuves de Koh Lanta parce qu'elles ont l'air un peu arides. On en parle avec vous, Bruno Fulini. Vous êtes l'auteur d'un formidable livre aux éditions du Trésor. Quel très joli nom d'ailleurs. Tour du monde des terres françaises oubliées. On se balade avec vous sur ces territoires qui nous font rêver, qui nous effraie aussi un peu. Tiens, j'avais envie d'aller visiter l'île des cochons. Elle fait partie des terres australes et antarctiques françaises, les fameuses TAF, c'est leur surnom. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette île aux cochons?
Alors pendant très
longtemps, île des cochons, pardon.
Île des cochons, parce qu'il y a effectivement des cochons qui ont été abandonnés par des navigateurs autrefois et qui ont proliféré. Alors c'est une île qui fait partie de l'archipel des Crozets, lui-même faisant partie des TAF. Et alors elle avait une particularité au moment où j'ai écrit ce livre, c'est que c'était le dernier bastion de territoire français non cartographié. Parce que l'Institut Géographique National, évidemment, n'allait pas envoyer des gens se faire congeler là-bas pour... cartographier un territoire où personne ne va. Et donc la carte avait été faite à partir de photographies aériennes. Simplement, compte tenu du climat relativement médiocre des îles Crozets, eh bien, il y a une couronne nuageuse qui faisait que le centre de l'île sur la carte est blanc. Et donc c'était vraiment la dernière terra incognita, terre inconnue, terre inexplorée, et ça avait quelque chose de fascinant. Et à force que je cafte cela dans les micros, eh bien, figurez-vous que l'Institut Géographique National a envoyé des gens se congeler sur pied, qui existe maintenant.
Qui vous maudissent depuis,
voilà.
D'ailleurs.
Alors, moi, par contre, je les admire. Je leur tire mon chapeau.
Ils
parce
vous
que
ont
je
contacté
trouve ça...
Vous les avez discutés avec eux?
Non, j'ai appris récemment que ça y est, enfin, la carte complète de l'île aux cochons était publiée. Et je n'imagine pas une seconde qu'il puisse s'agir d'un faux. Donc, je tire mon chapeau. Je dis voilà. Et en même temps, c'est une part de rêve aussi qui disparaît. Aujourd'hui, tout le territoire français, maintenant, est cartographié.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'îlots qui ne sont pas encore nommés? Où ça existe aussi?
Alors ça existe encore. Il faut retourner aux îles Chesterfield où il y a quelques îlots qui n'ont pas encore de nom. Donc si vous y débarquez, eh bien vous pouvez...
N'importe qui peut les nommer, ces îlots.
Vous pouvez leur donner un nom et puis après, ce nom, il figurera dans les cartes marines.
Mais concrètement, on peut donner un nom, mais il faut le déposer quelque part. On ne peut pas dire, tiens, toi, je te nomme île d'RTL.
Il faut le faire savoir, donc il faut le notifier. Mais vous savez, ça se fait. Il y a du côté de l'Antarctique un îlot qui a été baptisé d'un nom empruntant à trois langues qui donne phonétiquement Isla Cool Douce. Donc tout est permis, hein, absolument tout est permis.
Mais nous on va l'appeler l'île des curiosités. Tiens, ça serait pas mal. Est-ce qu'on peut s'acheter une île, tiens?
On peut s'acheter une île, mais sûrement pas dans les TAF. Hein. C'est-à-dire que la plupart de ces territoires sont du domaine public en fait, et de l'État ou d'une collectivité, et donc l'accès y est réglementé et on ne peut pas les acquérir comme des propriétés privées. Ailleurs, oui, hein, que ce soit en Bretagne, que ce soit en Polynésie, il y a plein d'îles à vendre, hein, ça existe, et c'est pas tellement plus cher qu'un appartement parisien. Mais le fait d'être propriétaire de l'île ne signifie pas que... Et de l'île aussi. mais vous avez des îles au Canada qui coûtent très peu cher.
La forêt du Mundat, c'est quoi? C'est où?
Alors, la forêt du Mundat, ça fait partie de ces quelques empiétements de la France sur le territoire allemand. Ça existe. C'est-à-dire que nous sommes à la frontière franco-allemande, du côté de Wissembourg. Pendant très longtemps, l'abbaye de Wissembourg commandait une vaste forêt. Et c'était important parce que c'est dans cette forêt que se trouvent les sources qui alimentent l'abbaye et maintenant la ville. Et donc, le tracé de la frontière en 45 avait coupé Wissembourg de son arrière-pays, en quelque sorte. Alors, on avait annexé au lendemain de la guerre mais de façon un peu irrégulière ce territoire. Et donc en 1984, il y a eu un accord Mitterrand-Kohl qui fait que la forêt du Mundat est devenue territoire allemand, mais est propriété privée de la République française. De la même façon, il y a trois communes françaises sur le Rhin qui, en tant que communes, sont propriétaires du territoire allemand qui est en face. Parce qu'au XVIe siècle, le Rhin a changé de cours et donc se pose le problème du territoire entre l'ancien cours et le nouveau cours, et c'est la solution qui a été trouvé.
Dans votre tour du monde des terres françaises oubliées, Bruno Fulini, vous nous parlez aussi des îles contestées. Ça sent le soufre, ça. C'est quoi ? C'est des îles qu'on se dispute ?
Oui, c'est des îles que la France considère comme lui appartenant, mais que d'autres pays considèrent également comme lui appartenant. Alors, les îles éparses font comme cela d'assez jolis contentieux. Il faut savoir qu'au temps des colonies, ces îles éparses, donc autour de Madagascar, étaient administrées depuis la colonie française de Madagascar. Et quand Madagascar est allé vers l'indépendance, trois jours avant la date fatidique, un décret a détaché ces îles de Madagascar pour en faire des territoires distincts. Et du coup, les Malgaches aujourd'hui considèrent que ces îles qui ont des noms superbes, Bassas da India, Juan de Nova, Europa, les îles Glorieuses, font partie de son territoire. Et puis au milieu de l'océan Indien, vous avez l'île de Tromelin, qui fait aussi partie des îles Éparses, qui est revendiquée par Madagascar, mais aussi par l'île Maurice. Et alors pour le moment, ce sont des sanctuaires écologiques, il n'y a pas vraiment de présence, mais si il se confirme qu'il y a du côté de ces îles Éparses des gisements pétrolifères, ça risque de se gâter.
Oui, parce que derrière tout ça, il y a des enjeux économiques et c'est ce qui rend aussi votre démarche passionnante. Tiens, question-réaction de Jacques qui nous envoie ça de Charente-Maritime. Je suis allé sur l'île Walpole. Alors j'espère que vous la connaissez. Tout petit, ça fait 1 km², c'est magnifique. Île découverte au XVIIIe siècle, aujourd'hui presque plus habitée. C'est un caillou au milieu de la mer. C'est où les îles Walpole ? Ça vous dit quelque chose ou c'est la colle du soir ?
Non, oui, c'est des îles complètement perdues, complètement désolées, glacées. Effectivement, alors je ne savais pas même qu'on pouvait encore y aller.
C'est-à-dire que vous-même, vous l'avez oublié.
Oui, c'est ça. C'est une île oubliée dans les îles oubliées. Il y a eu un Français qui s'appelait Robert Delarue, qui s'était fait une spécialité dans l'entre-deux-guerres d'aller dans ces îles et qui avait publié un livre magnifique sur un séjour d'un mois à l'île Walpole. Mais c'est fait partie des territoires les plus inhospitaliers. C'est pas sur celui-là que je choisirais d'aller.
Si vous deviez en choisir une, tiens, ce serait laquelle ?
Ah, moi, j'aimerais beaucoup aller à Clipperton parce que c'est sans doute l'île la plus fascinante de l'ensemble français. D'abord, la France, qui est très présente dans le Pacifique Sud, a comme seule présence dans le Pacifique Nord cette île de Clipperton, donc 7 km². C'est une île qui devrait être enchanteresse, au milieu du Pacifique, à la latitude du Mexique, et en fait c'est une île maudite. C'est une île où il s'est passé des choses abominables, en particulier les Mexicains qui avaient voulu en prendre possession, y avaient mis une garnison qu'ils ont oubliée. Le gardien de phare, après la mort des derniers soldats, a essayé d'y établir une espèce de principauté en réduisant les femmes et les enfants en esclavage. Les femmes l'ont fini par le massacrer. Enfin, c'est une île abominable. Et elle est devenue française par un tour de magie, c'est-à-dire que comme c'était un contentieux entre la France et le Mexique, on a soumis l'arbitrage au roi d'Italie. Ça a duré très longtemps, plus personne n'y pensait. Et puis au temps de Mussolini, pour amadouer la France avant une rencontre internationale qui n'avait aucun rapport, le roi d'Italie a dit « Ah ben, l'île est française !» Et depuis 1931, l'île de Clipperton est française, voilà, même si la France y est très peu présente.
Beaucoup d'autres histoires à lire dans votre livre passionnant « Tour du monde des terres françaises oubliées », c'est aux éditions du Trésor. Merci infiniment, Bruno Fulini.
Vous écoutez RTL.